Donc, bonjour Grégoire Lalou, merci d'avoir accepté notre invitation pour notre métier à Logos. Et pendant presque une heure, nous allons discuter politique pour ce premier hors-série. Et nous allons discuter du Rassemblement national, des idées de Marine Le Pen, des thématiques clés. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, d'attaquer ce sujet important, des sujets politiques, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Alors, comme ça a été dit, donc je m'appelle Grégoire Lalou, j'ai 26 ans, j'habite à Metz, je suis conseiller municipal de Metz et conseiller métropolitain. Et en ce qui concerne le Rassemblement national, enfin, d'un point de vue interne, j'occupe des responsabilités en tant que responsable des jeunes au niveau départemental et au niveau régional pour la Lorraine.
Alors du coup, on va commencer un petit peu par une sorte de bilan. Alors pas le vôtre du coup, mais plutôt celui de la majorité. Aujourd'hui, donc là nous enregistrons donc en janvier 2022. Bon, récemment l'actualité a été très chargée d'un point de vue parlementaire, avec notamment tous les débats qui ont concerné le pass vaccinal. À ce jour, à cette heure, quel bilan vous tirez, vous, en tant que représentant du Rassemblement national, du quinquennat d'Emmanuel Macron avant ces élections qui arrivent prochainement?
Bah écoutez, globalement, pour en revenir un peu aux origines de ce quinquennat, on nous avait promis que ce serait un monde nouveau, hein, pour reprendre les termes qui avaient été employés. Il s'est avéré que ce monde nouveau, en fait, il était la synthèse des 40 dernières années qui ont mis l'État dans la France dans laquelle nous le connaissons, sur le plan économique, sur le plan migratoire, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la précarité, tous les problèmes que nous avions depuis 40 ans se sont à chaque fois renforcés, et ça n'a pas, avec Emmanuel Macron, ça n'a pas non plus, il a poursuivi cette aggravation, puisque de toute façon, il mène la même politique que ses prédécesseurs, à savoir la même politique vis-à-vis de l'Union européenne, les mêmes politiques, les mêmes dogmes qui ne marchent pas. Donc évidemment, le bilan que je tire, que nous tirons, il est évidemment, problématique pour nous, hein, sur tous les aspects. Hein, je pourrais les égrener un par un, mais après, on peut forcément trouver des éléments positifs, ça il y en a toujours, mais globalement, évidemment, comme disait Georges Marchais, si je peux me permettre de citer, je dirais pour le coup que le bilan est globalement négatif concernant ce quinquennat d'Emmanuel Macron, et non seulement négatif, mais même très négatif, parce que je pensais qu'on ne pourrait pas faire pire que Nicolas Sarkozy. François Hollande nous a montré qu'on avait tort, et je pensais la même chose pour Emmanuel Macron, et visiblement, il a réussi à faire pire que son prédécesseur. Donc, si vous voulez, nous, on est un peu vaccinés sur le quinquennat, sur le bilan d'Emmanuel Macron. Prenons le chômage. Si on prend le chômage, il est en constante augmentation. Alors, on peut triturer, on peut revenir sur 2-3 chiffres, prendre en compte les catégories, j'entends bien, mais il n'y a pas de dynamique économique positive dans ce pays. Il y a de plus en plus d'investisseurs, d'entrepreneurs qui partent à l'étranger. Il y a de moins en moins d'investissements en France. Donc ça, il y a une balance commerciale, on l'a encore vu il y a quelques jours, qui est plus que déficitaire. Donc, si vous voulez, j'aurais du mal à trouver du positif sur ce bilan, globalement.
D'accord. Et vous pensez que l'impact de la crise sanitaire, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a pu, on va dire, perturber avec une force plus ou moins importante le programme d'Emmanuel Macron? On sait par exemple que la réforme des retraites a été totalement bousculée, en tout cas le calendrier a été bousculé en raison de cette crise sanitaire, et puis de par l'ampleur, on va dire, inédite de cette crise, qui est quasi, enfin c'est du jamais vu finalement dans l'histoire de la Ve République, une telle crise sanitaire. Est-ce que vous pourriez, on va dire entre guillemets, mettre de l'eau dans votre vin par rapport à cette crise sanitaire sur le jugement du bilan d'Emmanuel Macron, ou alors est-ce que pour vous ça reflète finalement le fond de sa politique?
Moi, je trouve que cette crise sanitaire, ça a aussi été l'un des symptômes du fameux en même temps, c'est-à-dire qu'on nous a dit tout et son contraire depuis le début de cette crise. Alors au début, j'entends bien que on ne savait pas tout. Par définition, c'était un nouveau virus, c'était une nouvelle situation. Donc, c'est sûr qu'il fallait essuyer les plâtres, comme on dit. Mais Par exemple, si on prend, prenons le prenons les masques, au début, on nous disait que ça ne servait à rien, et aujourd'hui, c'est devenu sacro-saint. Si on vous dit que le masque, si vous doutez de l'usage, de l'utilité du masque dans la rue, vous êtes tout de suite, on vous fait passer pour un complotiste, pour un obscurantiste, ou je ne sais quoi. Donc, si vous voulez, c'est vrai sur les masques, c'est vrai sur la politique des tests, c'était vrai sur la frontière, sur les frontières. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, nous disait que le virus n'avait pas de passeport, omettant de dire que ceux qui transportaient le virus, au-delà des frontières, bah, eux avaient un passeport. Et aujourd'hui, il y a quelque temps, il nous a dit que les frontières avaient finalement leur utilité. En tout cas, le gouvernement a dit qu'il y avait davantage de contrôle aux frontières pour juguler la contamination, comment dire, l'importation de certains variants. Donc, moi, je la trouve très symptomatique, cette gestion de la crise, parce qu'on a dit tout et son contraire, on a fait du en même temps, on a essayé de ne pas fâcher les uns et les autres, on a essayé de ne pas faire de vagues, et on continue à ne pas vouloir faire. À ne pas vouloir faire de vagues, enfin, à prendre le risque zéro pour eux, hein, j'entends sur le plan juridique, hein, parce que d'un point de vue sanitaire, on voit aujourd'hui que ce virus, et en l'occurrence le dernier variant en date, Omicron, est devenu, comment dire, est devenu beaucoup moins agressif, même auprès des personnes fragiles. Alors, la vaccination a aussi joué son rôle là-dessus, puisque la vaccination réduit les formes graves, mais à côté de ça, il faut aussi prendre en compte qu'une bonne partie de la population a été immunisée naturellement, et c'est une réalité que le gouvernement aujourd'hui, par dogme, refuse de prendre en compte. Bon, là, je dérive un peu sur les restrictions sanitaires qui en découlent, mais vraiment, je trouve que cette crise a été révélatrice du niveau d'abaissement de l'État, niveau d'abaissement de la France, parce que c'est un peu caricatural ce que je vais vous dire, mais j'ai eu l'impression à plusieurs reprises qu'on gérait cette crise comme un pays du tiers-monde. Et je me suis rappelé que ce qu'on appelait jadis le tiers-monde, de manière un peu méprisante d'ailleurs, le tiers-monde nous avait rattrapés, s'était depuis développé et faisait même mieux que nous sur cette crise. Je prendrai l'exemple de la Corée du Sud, qui, sur bien des aspects, nous a devancés dans la gestion de cette crise. Donc, si vous voulez, moi, encore une fois, cette crise sanitaire a été le reflet, la synthèse de la gestion de la pénurie, qui dans ce pays enfin, est récurrente, quel que soit le domaine. On est toujours dans la gestion de la pénurie, on fait toujours les choses trop tard. On met en place des mesurettes, des petites réformes, on ne s'attaque jamais aux causes, toujours aux conséquences, et encore on ne le fait pas correctement. Donc, j'ai évidemment une vision très sévère sur cette gestion de la crise. Alors évidemment, c'est facile à dire, c'est facile à dire, c'était une situation inédite, j'entends bien, mais je pense qu'il y avait des solutions de bon sens qui pouvaient être prises. Assez rapidement, hein, je citerai Marine Le Pen qui, dès le mois de janvier 2020, au moment où tout le monde nous disait pas de problème, c'est une grippette, ça restera en Chine, ça n'arrivera pas en France, eh bien Marine Le Pen à l'Assemblée nationale intervenait pour justement amplifier les contrôles aux frontières, en l'occurrence les avions qui venaient de Chine, puisque le virus, le foyer de ce virus, c'est la Chine. Et si on avait fait ça, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de virus en France, mais en tout cas, on aurait freiné son arrivée en France, on aurait freiné la contagion en France et on aurait pu se préparer à la fois au niveau des masques, au niveau des tests, au niveau de la recherche, au niveau d'un tas de choses et on n'aurait pas été dans cette gestion de la pénurie, dans cette impréparation la plus totale.
Pour l'avenir, qu'est-ce que propose Marine Le Pen justement si jamais elle venait à remporter l'élection présidentielle de 2022, d'un point de vue du vaccin, d'un point de vue des masques, d'un point de vue de toutes les restrictions sanitaires?
Alors, nous, on est très clair, je vais prendre les choses dans l'ordre. Concernant les restrictions sanitaires, on est très clair. On estime qu'aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être, car on l'a vu, le virus, au final, a sa propre dynamique. On peut endiguer par l'intermédiaire de certaines mesures, les fameux gestes barrières, hein, se laver les mains régulièrement, éventuellement porter le masque dans des milieux clos, peu aérés, peu ventilés. Ça, je pense que ça peut se défendre. Mais globalement, la logique, nous rejetons évidemment, et c'est ce que nos députés ont fait à l'Assemblée nationale et Marine Le Pen en tête, c'est nous rejetons toute forme, toute logique de passe sanitaire, de passe, encore plus de passe vaccinale, car encore une fois, on est attaché à la liberté des gens, à leur liberté les plus fondamentales, hein, parce qu'on parle quand même de présenter parfois, enfin, on parle de présenter un document d'identité pour aller boire un café, on parle. Il y a certaines personnes qui se voient exclues, virées de leur travail parce qu'elles ne sont pas vaccinées. Nous, sur le vaccin, on a toujours été très clair. On voit que ce virus s'attaque aux personnes fragiles, aux personnes qui ont des comorbidités. J'ai vu que l'autre jour, il y avait un chiffre, c'était un article de RTL, je crois, qui nous indiquait qu'une personne sur deux en réanimation était une personne obèse, en surpoids. Donc, alors, je ne tire pas évidemment sur les personnes en surpoids ou obèses, mais ça montre bien que la comorbidité, les comorbidités sont centrales dans l'aggravation de cette maladie. Et donc, il fallait pour ce faire davantage orienter ces mesures, davantage faire de prévention, de sensibilisation sur les personnes fragiles concernant le vaccin, parce que le vaccin s'attaque aux formes graves et moins à la contagion. Ça, aujourd'hui, c'est admis. Donc, il fallait être, je pense, plus subtil, plus nuancé, plus affiné dans cette crise, parce que au final, on a monté les gens les uns contre les autres, on a alimenté deux hystéries. Hein. Il y avait deux hystéries qui se répondaient l'une et l'autre. Il y avait les enfermistes, ceux qui voulaient vacciner tout le monde à tout prix, et à l'inverse, vous aviez des gens qui étaient anti-vax. Alors, certains peut-être pour de légitimes inquiétudes et d'autres qui partaient dans des délires totaux. Et on voyait que ces deux hystéries se répondaient et il n'y avait pas de place pour un juste milieu, pour une nuance, pour une position équilibrée qui était en l'occurrence la mienne et celle du Rassemblement national, à savoir le vaccin, oui, il réduit les formes graves et ce sont les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités qui doivent avant tout se faire vacciner. Et au-delà de ça, il fallait appliquer les gestes barrières au quotidien pour toutes les personnes, pour réduire autant que faire se peut la contagion de ce virus. Je ne sais plus si j'ai répondu à votre question.
En plus, une bonne digression par rapport au sujet principal, mais c'est intéressant. J'ai lu dans votre programme que vous vouliez réaliser davantage de référendums. Moderniser le nucléaire, réduire l'immigration, supprimer le droit du sol, enfin, de nombreuses thématiques. Si on devait, sur l'ensemble de ces sujets, ou même parlons de thèmes, retenir un ou deux thèmes clés du programme. Ça serait quel sujet, justement ? Comme ça, de mon point de vue, et je pense que du point de vue extérieur de beaucoup de personnes qui viennent du Rassemblement national ou non, ça serait le sujet de l'immigration. Et je donne mon point de vue car quand les gens pensent au Rassemblement national, la thématique qui ressort, c'est l'immigration et l'insécurité mêlée au sujet de l'islam.
Alors oui, c'est vrai que c'est l'un des, je dirais que c'était, en tout cas ça l'a été, ça c'est sûr, l'un des premiers moteurs, l'un des premiers carburants de la dynamique électorale du Rassemblement national, hier Front National. C'est évident que ce sont des thématiques qui nous sont chères, puisqu'on a été les premiers et les seuls à les mettre sur le devant de la scène, hein, il y a déjà plus de 40 ans. Et aujourd'hui, elles demeurent des thématiques centrales, fondamentales, mais aujourd'hui, depuis quelques années, on a évidemment étayé davantage notre programme au travers de différentes thématiques. Vous parliez à l'instant du nucléaire. Le nucléaire touche à la question climatique, à la question climatique d'une part, mais la question énergétique surtout. Et donc, l'énergie étant un enjeu de souveraineté, la souveraineté est aussi l'un de nos chevaux de bataille, parce que c'est essentiel, la souveraineté. La souveraineté, c'est la liberté, hein, c'est l'indépendance. Et quand on a un programme politique, quand on veut changer des choses pour un pays, en l'occurrence la France, on ne peut pas ne pas traiter l'enjeu de la souveraineté, car la souveraineté, c'est avoir notre destin en main. Donc il y a plein de thématiques sur lesquelles on a élargi notre éventail. Il y a le sujet énergétique, il y a la thématique sociale, il y a la thématique de la protection animale aussi. Je pense qu'on a traité à peu près toutes les thématiques, à différents degrés, à différents niveaux. J'entends bien, parce qu'on ne peut pas parler de tout, et de toute façon, c'est aussi à nous de définir les enjeux et les priorités. Mais c'est vrai que je dirais que nos priorités étant à la fois l'immigration, la sécurité et la souveraineté, parce que de là découlent beaucoup de problématiques, de sujets qui concernent les Français au quotidien.
Et du coup, est-ce que vous craignez ou non que le mode du référendum soit un risque, au final, de désavouer un petit peu définitivement certaines positions que peut prendre le Rassemblement national, pour prendre le sujet de l'immigration, par exemple? Est-ce que vous n'avez pas peur que, en fonction du résultat, qui peut-être serait, imaginons, contraire au projet de loi du Rassemblement national, est-ce que vous n'avez pas peur que ça entérine quelque part définitivement ces questions-là, plutôt que de prendre le risque, entre guillemets, le pari de faire avancer une législation un peu plus parlementaire et plus classique?
Alors, vous avez tout à fait raison de soulever cette thématique et ce problème, et moi, je tiens à réaffirmer, et nous réaffirmons, que la pratique du référendum, elle doit s'accompagner du respect de ce référendum. Alors, J'enfonce un peu une porte ouverte, j'ai envie de dire, mais quelque part, c'est essentiel de le rappeler parce que le dernier référendum que nous avons fait dans ce pays, on avait rejeté à 55% la Constitution européenne et au final, on a eu la Constitution européenne. Alors, écrite de manière différente, mais c'est la même chose, hein, strictement. Ça a été voté par Nicolas Sarkozy en 2008, il me semble, et ça a été adopté par les deux chambres, ce que moi je considère d'ailleurs comme une trahison, hein, parce qu'on est quand même. Vous avez des Français qui rejettent une décision grave quand même par référendum et des élites politiques qui font l'inverse. Donc c'est vraiment très grave et on peut vraiment se poser à partir de ce seul problème, il y en a d'autres, mais de l'orientation que prend notre démocratie, parce que la démocratie, au sens étymologique du terme, ça reste quand même le pouvoir du peuple et le peuple précisément s'est exprimé au travers d'un référendum et on a fait le contraire. Donc il y a vraiment un problème, il y a comme un péché originel quelque part. Donc, moi, nous réaffirmons au Rassemblement national que nous aurons une pratique référendaire courante et que de surcroît, et d'ailleurs, nous voulons, il me semble, inscrire dans la Constitution le respect de la décision par référendum. Et concernant le référendum sur l'immigration, en effet, vous savez, quelque part, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle pourrait se dire « j'ai la légitimité pour appliquer le programme pour lequel j'ai été élu ». Et évidemment, l'immigration étant un sujet phare, les Français, s'ils votent pour Marine Le Pen, auront approuvé ce projet sur l'immigration. Mais vous savez, nous, encore une fois, on est cohérents avec nous-mêmes. On veut une plus grande démocratie directe dans ce pays. On veut une plus grande, comment dire, on veut accorder plus de place au peuple dans cette démocratie, ce qui n'est plus le cas depuis 2005. On pourrait aussi parler de la question de la proportionnelle aux élections législatives. On voit qu'il y a des taux d'abstention de plus en plus importants aux différentes élections. Et là, on a vu un sondage pour les présidentielles qui prévoyait éventuellement un taux de participation entre 65 et 70%, ce qui est très peu pour une présidentielle, hein, ce qui serait un record malheureux pour notre pays. Et donc, je pense que le référendum, c'est un moyen de redonner au goût le goût de la politique, leur rappeler que c'est eux qui prennent les décisions. Normalement, sur le papier, parce qu'on est en démocratie, par définition. Donc, c'est un moyen de redonner du contenu à la politique, à la démocratie. Et c'est pour ça aussi qu'on va faire passer ce projet de loi sur l'immigration, car on leur dit, une fois notre élection, vous aurez toujours les référendums pour décider, oui ou non, de la politique de la nation. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'est pas tout seul pendant 5 ans dans notre tour d'ivoire à prendre une direction comme a fait Emmanuel Macron sans véritable contre-pouvoir ou avis favorable ou défavorable du peuple.
Et donc, vas-y Christophe, je poserai ma question après.
Juste pour rebondir du coup à ce que vous venez de dire, quelle place du coup pour la vie parlementaire dans ce système que vous décrivez, est-ce que finalement ce serait, on va dire, un peu mettre de côté ou alors est-ce que ça dépendrait peut-être aussi de la force en présence que vous estimez pouvoir mobiliser le Rassemblement national après aux législatives en cas de victoire aux présidentielles?
Alors, en cas de victoire, faisons un peu de politique fiction, en cas de victoire présidentielle, vous savez, donc je vous l'ai dit, on est favorable à la proportionnelle. Est-ce qu'il est possible, alors là, je ne sais pas s'il est possible de mettre en place la proportionnelle en moins de 2 mois de surcroît dans une élection, enfin dans une passation de pouvoir, en pratique, je ne sais pas. Mais du reste, s'il y a des règles, ben nous ferons avec les règles, c'est bien normal. De toute façon, je pense que dans le cas d'une victoire du Rassemblement national au présidentiel, enfin de Marine Le Pen, je pense qu'aux législatives, nous aurions quand même une majorité, malgré le scrutin majoritaire qui ne nous est pas favorable, parce qu'il y a la logique de la Ve République. Et moi, pour avoir un peu, pour suivre à chaque fois le résultat de ces élections législatives dans le temps, hein, depuis que ça existe, les élections législatives viennent toujours s'inscrire dans la dynamique présidentielle. Et évidemment, la dynamique présidentielle se fait au bénéfice de celui qui a gagné. Et donc, c'est la base électorale qui se mobilise le plus. Donc, alors, c'est aussi trompeur quelque part parce que vous avez une base électorale qui se mobilise et une autre pas. Donc, quelque part, vous faussez un peu la représentation de cette assemblée. Donc, c'est pour ça que malgré tout, même si nous, on avait cette majorité grâce au scrutin majoritaire, on introduirait à minima, même, alors je vous dis à minima pour ne pas dire totalement, cette proportionnelle pour que chaque courant politique, quel qu'il soit, hein, que ce soit Philippe Poutou ou je ne sais qui, puisse être représenté à sa juste valeur. Alors, ensuite, avoir. Le quota nécessaire, enfin le pourcentage nécessaire pour avoir 1 ou 5 députés. Enfin voilà, après il faut voir le détail des conditions, mais l'objectif ce serait vraiment d'avoir une plus grande représentativité, une plus grande diversité politique au sein de cette Assemblée nationale.
J'ai une question, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous avez parlé d'inscrire le résultat du référendum dans la Constitution. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. Est-ce que vous comptez faire ça pour outrepasser le potentiel blocage du Conseil d'État? Et l'autre question que j'ai, c'est pour... depuis tout à l'heure, on discute de référendum et c'est même plus loin parce que vous parlez de référendum d'initiative populaire. Et j'aimerais savoir comment ça pourrait être organisé. Est-ce que à l'initiative d'un citoyen, par exemple, de porter un projet qui venait à ramener, par exemple, je ne sais pas, 50, 100, 150 000 signatures permettrait justement de porter un projet au Parlement?
Alors, sur la question, votre première question, c'était
Du Conseil d'État.
le Conseil d'État. Alors, oui, évidemment, nous déplorons une situation, c'est qu'on est un peu entré dans la République des juges. C'est-à-dire que les juges font de la politique parfois, pas tous, mais certains, je pense, dépassent un peu le rôle qui est le leur. Et donc, évidemment, si on fait des référendums, il y a aussi une valeur. En premier lieu symbolique à ce référendum, puisque dès lors que vous avez le peuple qui est derrière vous et qui approuve votre politique, on voit mal comment une institution pourrait totalement faire barrage, parce que c'est vrai que sur bien des aspects de notre programme, on voit le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, la crise sanitaire nous l'a montré, il est un peu politisé. Enfin, je trouve qu'il n'est pas toujours honnête dans ses analyses et surtout dans ses décisions, parce que ils sont censés protéger, garantir les libertés publiques, les libertés individuelles, enfin, sur un tas d'aspects. Et je pense que le contrat n'a pas été rempli au travers de cette crise sanitaire. Donc évidemment, le référendum aura aussi cette valeur politique, symbolique, vis-à-vis de certains juges qui voudraient outrepasser leur rôle. Parce que rappeler que la démocratie, c'est aussi l'état de droit, certes, mais c'est avant tout le pouvoir du peuple. On en revient toujours à la même chose. Et un juge, je pense, n'a pas à dire à la volonté populaire ce qui est bien ou pas. Moi, je pense que le peuple prend souvent les bonnes décisions. Et donc, évidemment, le référendum sera là pour appuyer notre politique. Alors, c'est toujours la question. Encore faut-il que nous gagnions ce référendum. Il faudrait pas que ces référendums ne soient que des plébiscites. Vous voyez? Parce que, par exemple, le général de Gaulle, lorsqu'il a perdu un référendum, il a démissionné. Parce qu'il avait lié ce référendum à sa propre situation. Alors, à tort ou à raison, mais en tout cas, je pense que pour qu'il y ait de vrais référendums avec des vraies thématiques où les gens pèsent le pour et le contre, il faut vraiment que ces référendums soient avant tout des référendums qui reposent sur la question qui leur est posée et pas sur oui ou non, on continue avec Marine Le Pen. Même si, évidemment, lorsqu'un dirigeant organise un référendum et que le peuple vote non alors que le dirigeant avait appelé à voter oui, c'est vrai que ça peut entériner, ça
Mobilise un
peut.
peu.
Voilà, ça peut affaiblir le capital politique du dirigeant. Mais j'aurais aussi envie de dire, ce sera aussi ça la démocratie, c'est-à-dire que le dirigeant devra reculer parce que le peuple l'a décidé ainsi. Donc, mais entre reculer et démissionner, je pense qu'il y a un juste milieu. C'est-à-dire je ne pense pas qu'un dirigeant doit forcément démissionner s'il perd un référendum. Je pense que simplement le dirigeant doit se plier à la volonté populaire. Et pour en venir maintenant au référendum d'initiative populaire, hein, que nous portons depuis plusieurs décennies maintenant. Effectivement, alors, il y a à voir encore une fois les modalités. Hein. Comme vous l'avez dit, ça peut être 150 000, ou alors, il me semble que la dernière fois que je ne vous dis pas de bêtises, c'était peut-être 500 000. Alors, 500 000, ça peut paraître élevé, mais pour un référendum où il y aura vraiment une volonté du gouvernement d'organiser un référendum, les 500 000 signatures, ça ne devrait pas être, quand on sait que c'est possible, ça ne devrait pas être difficile à réunir. Je crois qu'actuellement, pour faire un référendum en France, il faut 4 millions alors je dis peut-être une bêtise, il me semble, mais je me semblais avoir entendu ça, il faut 4 millions de signatures de citoyens et il faut que le Parlement accepte la requête. C'est-à-dire que le Parlement n'est pas obligé d'entériner la logique du référendum. Donc, si vous dire que il ne peut pas y avoir de référendum en pratique, parce que c'est tellement. C'est pas possible, quoi. Donc, évidemment, il faut faciliter cette pratique référendaire autant que faire se peut. Que ce soit le gouvernement qui organise un référendum, ou alors que ce soit les citoyens qui mettent sur la place publique des thématiques, des grands sujets de société. Voilà, je ne sais pas si.
Si, non, vous avez très bien répondu. Mais justement, je me posais une question sur les limites de ce référendum. Admettons, il y a une personne qui arrive à porter une demande concernant justement la destitution au pouvoir de Marine Le Pen. Est-ce que c'est une question qui pourrait potentiellement être portée suite à la demande et à la réunion d'un certain nombre de signatures par un citoyen, ou par les citoyens plutôt?
Alors, c'est compliqué parce que là, il s'agirait de... Alors, je ne suis pas un spécialiste du droit constitutionnel. J'ai évidemment quelques notions, quelques bases élémentaires. C'est compliqué parce qu'il s'agirait de, il s'agirait de. Moi, je suis un peu contre là, parce que ça reviendrait un peu à cette idée-là, la révocation des élus. C'est vrai que c'est une thématique qui a été évoquée il y a quelques temps lorsqu'on a parlé du référendum. Et certains, et je crois que c'est notamment le cas de Mélenchon, qui voulaient avoir cette pratique de révocation des élus. La difficulté, c'est qu'un élu, normalement, souvent, en général, il est élu avec une majorité. Que ce soit une majorité relative, que ce soit une majorité, vous savez, l'histoire des triangulaires, l'histoire des... Alors ça, c'est pour les élections locales, mais globalement, c'est toujours les majorités en France, en général, qui élisent les élus, et notamment le président de la République. Là, se poserait le problème, c'est qu'il suffirait qu'une minorité agissante, il suffirait qu'une minorité agissante se réunisse, amasse quelques signatures pour défaire quelqu'un qui était élu à la majorité. Donc, moi, je suis très méfiant à l'égard de ce concept, parce que ça pourrait être la porte ouverte à des dérives, à l'instabilité, parce que et je pense que des groupes et je pense que des gens, par exemple, enfin, notamment il y a des gens à l'extrême gauche qui sont assez bien organisés, qui portent ce projet de révocation des élus, ils le portent à visée politique parce qu'ils savent qu'ils sauraient se mobiliser, ils savent qu'ils sauraient amasser des signatures pour révoquer, ou en tout cas organiser de nouvelles élections contre un homme ou une femme politique qui leur déplaît. Donc, il faudrait voir, il faudrait définir les modalités, mais je pense que ça pourrait être, je pense que ce serait pas sain, ça pourrait être dangereux. Il ne faut pas s'interdire de réfléchir à la question, mais je suis très sceptique sur la question de la révocation des élus, parce que c'est là, ça revient à cette question. Et vous parliez de la destitution du président de la République, alors en l'occurrence, si c'était Marine Le Pen, là, il y a un cadre institutionnel qui fixe des règles aussi déjà. Donc, je pense que si c'était, je pense que malgré tout, les parlementaires sont responsables et que si une procédure de destitution était entérinée, c'est parce que vraiment le chef de l'État se serait prêté à des pratiques même pas inacceptables, visant, frôlant la loi de trahison. Ou, vous voyez, donc je ne pense pas que. Vous voyez, c'est, en France, je pense que pour destituer un chef d'État, il faut quand même aller plus loin qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on va vouloir on va vouloir vous destituer parce qu'il paraît que. Il paraît que telle ou telle personne vous aurait aidé pendant la campagne présidentielle, voyez ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des modalités solides sur ce genre de sujet, que ce soit la révocation des élus ou la destitution.
Mais voilà, c'est justement parce que c'est pas existant, mais le fait de pouvoir proposer ce type de référendum d'initiative populaire, permettrait justement de soulever cette question et de permettre à certains, enfin, aux citoyens. D'engager la question à plus haute échelle et donc de remettre en cause potentiellement la situation de la personne en place. Mais effectivement, je comprends la fragilité que ça cause, et notamment le jeu des partis politiques. Alors, vous avez cité l'extrême gauche, parce que dans le cas, évidemment, si c'était Marine Le Pen, mais à l'inverse, si c'était Mélenchon au pouvoir, l'extrême droite ferait la même chose, ou même la droite tout court. C'est le jeu des intérêts politiques. Et des manipulations politiques, de la politique politicienne, et après de l'influence que ça a sur les citoyens. Mais quelque part, vous l'avez dit tout à l'heure, les citoyens ont raison à la fin, quand ils votent, quand ils font leur choix. Et si une personne, si un groupe arrive à réunir assez de signatures pour que ce débat soit soulevé, et qu'au moment du vote, eh bien, on décide de destituer ou de changer le président ou la présidente, eh bien, les citoyens auront raison.
Alors, comme je vous l'ai dit, après, sur la question précisément du chef de l'État, parce que là, pour le coup, ce serait un scrutin national, il y aurait une campagne nationale, donc je pense que les citoyens seraient impliqués. Après, mes craintes, c'était plus au niveau local, parce qu'au niveau local, vous savez, ça peut aller très vite, par clientélisme, par ceci, cela. Donc, bon, je mets ça de côté, mais en effet, si on entérine la pratique référendaire, je pense que c'est une question qui peut se poser. Alors après, comme je dis, à voir les modalités, mais en effet, après tout, certains, je parlais du général de Gaulle tout à l'heure, le général de Gaulle de lui-même s'est mis en retrait, alors que c'était même pas une question qui concernait sa personne. Hein. C'était un référendum, qu'on pourrait dire thématique, sur un grand, sur un enjeu politique. C'est vrai que c'est une logique qui peut se défendre. Oui, oui. Alors après, à voir, évidemment, encore une fois, les détails, les modalités.
Christophe, est-ce que tu as une question ou sinon je...
Est-ce qu'on peut passer du coup à des questions un petit peu plus, on va dire, politiciennes, et donc en balayant un petit peu l'actualité politique à quelques mois maintenant, une élection qui va arriver très très vite. Vous n'êtes pas du coup sans ignorer la candidature, en tout cas pour l'instant seulement déclarée, d'Éric Zemmour à la droite de la droite, on va dire, de l'échiquier politique. Quelle est votre position, vous personnellement, mais également vous, au Rassemblement national, vis-à-vis de cette candidature? Quels sont, selon vous, les points de convergence qui pourraient rassembler Marine Le Pen et Éric Zemmour, ou les points de dissonance entre les deux qui seraient, on va dire, infranchissables?
Alors, les points de convergence, il va sans dire que sur le fond, nous en avons pléthore, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est d'ailleurs ce qui nous pose un peu problème quelque part, parce que quelle est la valeur ajoutée de la candidature d'Éric Zemmour? Alors moi, évidemment, tous les candidats et comment dire, tous les mouvements politiques, toutes les expressions de mouvements ou d'idées politiques doivent pouvoir s'exprimer sereinement, tranquillement, dans une élection, qu'elle soit présidentielle ou autre. Donc, évidemment, je respecte sa candidature et sa volonté d'être candidat, mais c'est vrai que sur le fond, on se dit que ça vient en premier lieu, avant tout, diviser Marine Le Pen, prendre des voix à Marine Le Pen. Ça, c'est le premier aspect factuel, parce qu'en effet, nous partageons un certain nombre de choses. Alors, des points des désaccords que nous pouvons avoir, il y en a notamment sur le plan verbal, je dirais, sur le plan des thématiques abordées. Enfin, Éric Zemmour a sa façon de s'exprimer. Éric Zemmour a ses thèmes, là aussi. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est passionné par l'histoire. J'adore parler de l'histoire de France, de l'histoire en général, mais c'est vrai que ça ne fait pas un programme politique, malheureusement. Et c'est vrai qu'Éric Zemmour a tendance à réduire un peu ces questions-là et ne se préoccupe pas forcément. Même s'il faut prendre le temps de la campagne pour développer son programme, mais il ne se préoccupe pas forcément du concret, du quotidien des Français. Donc, c'est peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher davantage, c'est qu'il n'a pas, il n'a pas beaucoup de mesures pour le moment, et pour suivre régulièrement l'actualité, les quelques mesures qu'il déploie au quotidien, ce sont bien souvent des mesures copiées-collées de Marine Le Pen. Donc, quelque part, on pourrait se réjouir que quelqu'un reprenne nos idées, mais la difficulté, c'est que ça vient diviser les voix et ça réduit les chances de Marine Le Pen d'être au second tour. Donc, évidemment, Éric Zemmour, moi, à titre personnel, je peux avoir de l'admiration pour lui. Je suis un de ses lecteurs. J'apprécie un certain nombre de choses de ce qu'il a pu dire, de ce qu'il a pu faire. J'en apprécie d'autres beaucoup moins, hein, parce qu'il y a certains débats, je ne voyais pas forcément l'intérêt de les mettre sur la place publique, et puis il y a parfois une dérive verbale qui ne me paraît pas pertinente, en tout cas sur le champ électoral, parce que précisément il est polémiste. Donc être polémiste et candidat à la présidence de la République, ce n'est pas la même chose, puisqu'on doit être dans une logique de rassemblement, dans une logique d'équilibre, et ce n'est pas ce que fait Éric Zemmour. Et le problème c'est que moi, c'est le sentiment que j'ai un peu, enfin, peut-être que la situation viendra me contredire, mais j'ai l'impression qu'il est dans une impasse, parce qu'il n'est pas dans cette dynamique de rassembler. Je veux dire, il a un socle, c'est vrai, il a un socle, mais il ne cherche pas trop à l'élargir, en tout cas seulement à l'élargir à une fraction. Donc, je trouve que c'est une candidature, c'est dommage, parce qu'il y a une dynamique, enfin, on voit qu'il y a une dynamique des idées que nous partageons en France, hein, de plus en plus, mais que cette candidature, ça réduit nos chances d'être au second tour et de les représenter davantage et éventuellement de les faire accéder au pouvoir. Donc, si vous voulez, moi, j'ai toujours un rapport mitigé avec Zemmour, parce que c'est quelqu'un que je peux apprécier, mais qui malheureusement fait un peu cavalier seul, va un peu vivre sa petite aventure de son côté et ne joue pas collectif. hein, même si, encore une fois, on peut avoir des désaccords, mais à un moment donné, il s'agit de mettre certains désaccords de côté et de se rappeler que si on s'engage, c'est pour la France et non pas pour vivre sa petite aventure personnelle.
Qu'est-ce que vous envisagez, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà peut-être pensé à la question, mais si, imaginons, encore une fois, politique fiction, pardon, Éric Zemmour est au second tour. Est-ce que votre choix de soutenir sa candidature au second tour paraît naturel, ou alors est-ce qu'il y aurait un vrai débat, une vraie réflexion au sein du Rassemblement national sur oui ou non, en fonction de l'adversaire, etc., etc.
Bah, écoutez, moi, de toute façon, je pense, et je ne dis pas ça parce que je le dis par principe, je pense vraiment dans mon fort intérieur que malgré tout, Marine Le Pen accédera de justesse au second tour, malgré cette candidature d'Éric Zemmour. Mais faisons, entérinons en effet cette logique de si jamais Éric Zemmour était au second tour, face à Emmanuel Macron, il va sans dire, enfin, en tout cas à titre personnel, mais je pense que cet avis sera partagé par nombre de mes camarades ou corréligionnaires, c'est qu'évidemment, face à Emmanuel Macron, il n'y a pas de choix possible, il n'y a pas d'hésitation possible, ce sera Éric Zemmour. La difficulté, c'est qu'avec un Éric Zemmour au second tour, en tout cas les sondages valent ce qu'ils valent, mais nous indiquent que Éric Zemmour est moins bien placé, fait beaucoup moins bien que Marine Le Pen au second tour. Donc, encore une fois, évidemment, je prendrai mes responsabilités, mais ce serait dommage que cette situation se produise, puisqu'on voit qu'actuellement, dans les études, c'est plutôt Marine Le Pen qui ferait davantage au second tour et qui, éventuellement, si on prend en compte la marge d'erreur et une dynamique de campagne de second tour, pourrait éventuellement l'emporter. Donc, voilà.
Et qu'est-ce que vous pensez, ou qu'est-ce que vous avez à répondre à on va dire, à une sorte de thème qui revient de manière assez récurrente depuis justement l'annonce de la candidature d'Éric Zemmour, et on va dire sa forte couverture médiatique et sa forte portée polémique, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on mette souvent en avant le fait que Marine Le Pen soit peut-être, on va dire, peut-être une image un peu adoucie dans ces prises de position politique? Est-ce que le fait que, pour parler un peu de manière un peu simpliste, passe un peu plus pour une gentille aux yeux des médias ou du grand public, ou alors est-ce que vous pensez peut-être vous saisir de cette opportunité pour poursuivre une logique de dédiabolisation qui a été amorcée il y a de cela quelques années, ou alors vous en êtes assez indifférent et c'est quelque chose qui peut aussi vous déplaire peut-être?
Bah, c'est vrai que la candidature d'Éric Zemmour, son émergence, la façon dont il a surgi, évidemment, ça a provoqué une fièvre médiatique, on peut dire, parce que il y a, comme diraient les anglo-saxons, il y a un storytelling, c'est-à-dire que vous avez là un écrivain à succès, hein, il faut lui accorder ça, un polémiste, un journaliste, un chroniqueur d'une émission qui a une émission à succès, voilà cet individu qui est candidat à la présidence de la République. Qui n'est pas un politicien, qui n'a jamais fait de politique auparavant, qui n'a jamais été élu. Donc, il y a quelque part un peu, c'est un peu l'effet du temps, comme on dit. Donc, c'est nouveau, c'est quelque chose d'original. Et évidemment, les journalistes se sont intéressés à ça, parce qu'évidemment, ça peut intéresser naturellement les gens par principe, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'original qui ne s'est pas produit aux dernières élections, enfin, si, qui s'est produit plus ou moins avec Emmanuel Macron, même si. Mais Macron était déjà ministre, conseiller d'Hollande, donc c'était bon, il était quand même déjà un peu, il avait quand même déjà un pied dedans. Et Éric Zemmour, pour le coup, c'est quelqu'un qui vient, quelle que soit l'idée qu'on peut avoir, enfin l'avis qu'on peut avoir sur ses idées, c'est quelqu'un qui vient précisément du combat métapolitique, comme on l'appelle parfois, du combat des idées, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de faire passer dans la société, à travers sa production intellectuelle, et ben des idées, et qui ne rentre pas dans dynamique électorale. Donc effectivement, ça a pu. Les gens ont de la curiosité, c'est naturel pour ça, à commencer par les journalistes qui sont toujours très friands de ce genre de storytelling. Ensuite, pourquoi ensuite l'effet miroir avec Marine Le Pen? Oui, on dit qu'elle s'est adoucie, qu'elle est devenue plus comment dire, qu'elle est comment dire, qu'elle est devenue moins radicale entre guillemets. Bon, même si le terme radical, c'est étymologiquement, ça n'a rien de méchant entre guillemets, mais on a tout simplement gagné. En fait, Marine Le Pen s'est tout simplement enracinée dans la conscience des Français. C'est-à-dire qu'elle fait de la politique depuis un certain nombre de décennies. Elle est candidate à la présidence de la République pour la troisième fois. Les gens, au travers des études, lui reconnaissent un certain courage. C'est toujours ce qui revient, un certain courage, une force de conviction, j'ai quand même vu un autre terme hier, enfin bref, je ne sais plus, mais... Et les Français se sont un peu habitués à Marine Le Pen, pour le meilleur et pour le moins bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'effet, il n'y a pas l'effet neuf, en effet, qui forcément peut, je ne dirais pas porter préjudice, mais effectivement, si à côté vous avez une nouvelle candidature, c'est normal que sur le coup, ça suscite de l'enthousiasme, ça suscite des passions, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, c'est assez logique et en même temps, si on est devenu, si la figure de Marine Le Pen s'est un peu adoucie, c'est que nous avons aussi rompu, comme elle le disait l'autre jour, avec une certaine ivresse de la radicalité, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien de provoquer pour provoquer, il faut avant tout être dans la construction, il faut avant tout être dans le concret, dans les propositions, dans le projet politique, et je pense que là-dessus, elle a bien réussi cet objectif depuis quelques années.
J'ai beaucoup aimé votre honnêteté quand on a parlé de ce que vous pensiez d'Éric Zemmour parce que au début de l'entretien, on a parlé du blocage potentiel du Conseil d'État, vous avez parlé de politique des juges, on a parlé évidemment d'immigration, d'insécurité. J'ai eu le sentiment de parler avec quelqu'un qui va potentiellement voter pour Éric Zemmour ou qui aura son Rassemblement national. Et donc, voilà, la difficulté, c'est justement ce qu'évoquait Christophe, c'est de faire la différence entre les deux. Et la question que j'ai, la remarque que j'ai, c'est est-ce que ces dernières semaines, que ce soit Éric Zemmour ou vous au Rassemblement national, n'êtes pas devenus les plus grands ennemis politiques, dans le sens où Éric Zemmour vous tape beaucoup dessus et vous ripostez, vous tapez beaucoup sur Éric Zemmour, pour des intérêts politiques, pour votre électorat, dans le seul et unique but de mettre en avant les quelques différences face aux centaines d'éléments qui font que vous ressemblez beaucoup. Vous savez, cette simple logique de politique politicienne qui vise à garder l'électorat, parce qu'effectivement, vous le dites, avec la candidature d'Éric Zemmour, vous perdez des voix, c'est factuel, mais vous perdez des voix parce qu'il y a une proximité idéologique entre les deux, comme il n'y en a jamais eu. Enfin, on peut parler des multiples candidatures de gauche, mais... Éric Zemmour, Marine Le Pen, c'est presque Olivier Besancenot, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, on est quelques différences, mais on est presque à ce même niveau-là, à ce même niveau.
Ouais. Écoutez, vous savez, comme avait dit Marine Le Pen, je crois que c'est elle qui avait dit ça, ou alors c'est moi qui greffe ce que je pense sur. Enfin, il me semble qu'elle avait dit ça. Elle avait dit qu'Éric Zemmour n'était ni un adversaire ni un ennemi, mais tout simplement un concurrent. C'est-à-dire qu'en effet, un concurrent, par définition, il est un peu sur un créneau, sur le créneau qui est le nôtre, c'est-à-dire sur l'insécurité, sur l'immigration, sur des thèmes de la souveraineté, sur différents thèmes, sur différents aspects, avec éventuellement une différence de nature, de sensibilité et de sémantique, là aussi. Oui, en effet, on est un peu divisé, grosso modo, en deux. On va dire, il y a un peu deux blocs. Je ne vais pas parler de frères ennemis parce qu'il n'est pas question d'ennemis, absolument pas. Et moi-même, je connais une myriade de jeunes, enfin de gens qui soutiennent Éric Zemmour, qui sont certains de mes amis, qui sont des connaissances, avec qui je m'entends très bien, et avec qui, évidemment, on a des accords, ça va sans dire. Donc, je veux dire, la logique des choses voudrait qu'on soit dans une même structure à soutenir un seul et même candidat. Donc, c'est comme je vous dis, encore une fois, c'est dommage. C'est dommage et en même temps, c'est la démocratie. C'est-à-dire que chacun a le droit d'être candidat, de porter sa sensibilité, sa différence aussi. Car au final, il y a beaucoup de points d'accord, mais il y a aussi une différence de ton chez Éric Zemmour, une différence de propos. Donc, il y a une dynamique qui n'est pas la même. Il y a aussi une sociologie qui n'est pas forcément... qui n'est pas forcément la même, encore que on n'est pas très éloigné, hein, mais c'est sûr que ce n'est pas forcément, on va dire que ce n'est pas forcément simple, mais moi je pense que les gens sauront reconnaître malgré tout la solidité de Marine Le Pen et qu'on ne s'improvise pas candidat du jour au lendemain. Et quand je vous dis ça, je ne pense pas manquer de respect à Éric Zemmour, mais être candidat à la présidence de la République, enfin, ça demande de revêtir un autre rôle, une logique de rassemblement. Et je pense qu'Éric Zemmour n'a pas encore embrassé cette logique de rassemblement. Il est un peu restreint à ces thèmes. Et moi, je trouve ça dommageable parce que je pense que cette fois-ci, on a vraiment une chance de gagner. Que ce soit, alors il y a certes les sondages, mais encore une fois, les sondages valent ce qu'ils valent et on ne peut pas tout baser là-dessus. Mais je pense que plus globalement, il y a une dynamique dans le pays, il y a une dynamique au niveau des idées. Il y a aussi une protestation comme jamais il y a eu dans ce pays. On sait quand même, enfin, le quinquennat d'Emmanuel Macron a été, moi, qu'on puisse dire, extraordinaire. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, qui a été quand même là aussi extraordinaire, quand même, parce que bon, c'est un mouvement qui est parti. Au final, de pas grand-chose, mais qui a concentré, qui a synthétisé un certain nombre de frustrations dans la société. Et par la suite est venue cette crise sanitaire avec des restrictions de liberté comme nous n'en avions jamais eu. Donc, je pense que tout ça a fracassé le pays. Et j'ai espoir qu'il y ait un sursaut, même si parfois les sondages disent qu'on va peut-être, peu chose près, Emmanuel Macron et l'ordre politique depuis 40 ans va peut-être échapper à une vague populiste, mais je pense qu'il y a un alignement des planètes et je pense que c'est le moment ou jamais. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y ait une candidature un peu dissidente qui vient de se greffer là-dessus.
J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, qui est du coup vraiment très intéressant quand vous évoquez notamment la crise des gilets jaunes, qui est donc, on va dire sur le fond, était vraiment l'expression d'une colère suite à une situation sociale et économique assez difficile pour nombre de personnes. On sait quand même malgré tout depuis le début de cette campagne, si ce n'est électorale, médiatique, que Éric Zemmour porte malgré tout un discours économique et social assez libéral, assez proche de Sarkozy en son temps, notamment avant les élections de 2007 sur plusieurs thématiques, ce qui n'est pas vraiment le cas, on va dire, de Marine Le Pen depuis plusieurs années maintenant, qui essaie, à contrario, de s'en détacher en tenant un discours économique et social un peu plus, on va dire, à gauche, si je peux me permettre de dire cela. Est-ce que pour vous, du coup, c'est quelque chose qui est un point de blocage très important dans la candidature d'Éric Zemmour, ou alors c'est quelque chose qui est une question qui est finalement un peu secondaire?
Vous savez, moi, mon avis sur cette question, c'est que comment dire, la thèse, entre guillemets, qui consiste à dire que Marine Le Pen est économiquement de gauche, grosso modo, hein, pour caricaturer, il est vrai que Marine Le Pen, depuis plusieurs années, décennies, brocarde un certain ultralibéralisme, un néolibéralisme, en tout cas à l'extérieur de la France, et qui fracasse notre économie, qui fracasse, qui renforce la précarité des classes populaires. On parlait même de classe moyenne paupérisée, hein, depuis quelques années. Donc, c'est vrai qu'on a un discours social, mais vous savez, le social, ce n'est pas forcément ce n'est pas le socialisme, à mon sens. Le social, c'est prendre en compte une urgence sociale précisément, la traiter et offrir des perspectives aux gens. Ce n'est pas seulement leur donner toujours plus d'allocations. Et Marine Le Pen, si vous voulez, il n'y a pas d'ambiguïté sur la question. Elle est pour la liberté d'entreprendre, elle est pour réduire les charges, elle est pour réduire les normes, elle est pour aider les gens à entreprendre en France, parce que, et d'ailleurs, c'est l'objet de plusieurs de ces propositions, on en parlera peut-être après, mais j'ai du mal à voir un programme de gauche chez Marine Le Pen, encore une fois. En plus, dans la droite, ce qu'on appelle la droite au sens du terme, il y a toujours eu la place pour une droite nationale, populaire, une droite sociale, hein. Je tiens quand même à rappeler qu'un certain nombre d'acquis sociaux dans ce pays se sont faits sous le Second Empire, sous Napoléon III, qui est quand même pas alors ce sera anachronique de dire ça, mais un gauchiste en puissance, quoi. Donc, si vous voulez, nous, on essaye d'être équilibré sur la question. On n'est pas dogmatique sur l'économie. Je ne pense pas qu'on puisse nous qualifier de droite ou de gauche. Simplement, on cherche à défendre les intérêts économiques et industriels de la France. On cherche à éviter la précarité autant que possible pour les Français. Et je ne pense pas qu'en disant ça, on verse dans le socialisme, c'est-à-dire la gauche, hein, parce que c'est ça la gauche. Donc, si vous voulez, on n'est pas pour le laisser faire, laisser passer, hein, pour être un peu, pour faire un peu un raccourci. Mais en même temps, on n'est pas pour, si vous voulez, on veut mettre fin à la logique de l'État obèse pour avoir un État fort, stratège, intelligent. C'est-à-dire un État qui intervient quand c'est nécessaire pour préserver les intérêts nationaux, pour éviter qu'il y ait une explosion sociale due à la mise en danger de telle ou telle industrie. Mais à aucun moment donné, on veut entretenir l'état actuel des choses, c'est-à-dire un État obèse qui intervient en permanence, qui se mêle de la vie des gens en permanence. Nous, on veut rééquilibrer les choses, encore une fois. Mais c'est vrai que notre discours a été caricaturé par l'UMP il y a quelques années pour empêcher à l'époque les sympathisants électeurs de l'UMP de venir davantage vers Marine Le Pen. Parce qu'il y a évidemment une décrue à l'époque, et ça a été une manière de diaboliser notre discours sur l'économie en disant, oh, ça limite l'extrême gauche, le programme de Marine Le Pen, soyez des gens de droite, restez chez nous. C'est grosso modo, c'est une stratégie électorale, une construction médiatique. Donc, mais évidemment, Éric Zemmour en joue de ça, parce qu'il sait qu'il peut récupérer une partie des LR. Et il sait que pour les empêcher que ces LR viennent chez nous, il faut nous attaquer à travers cette construction médiatique, ce prisme économique.
Quelque part, vous avez bien aussi récupéré des personnes, enfin des personnes votant habituellement à l'extrême gauche. Enfin, effectivement, prenons quand on parle de socialiste, ne tombons pas dans le côté caricatural à dire que c'est le versement d'allocations à tout va. Mais prenons l'idée, c'est un État important et qui intervient dans l'économie et qui travaille dans cette logique de redistribution. Si je prends quelques mesures. Du programme de Marine Le Pen, et qui est d'ailleurs très intéressant avec la transition avec son père Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, en 2007, était par exemple pour la retraite à 65 ans. Dès 2012, Marine Le Pen a changé et voulait porter la retraite à 60 ans. Autre exemple, la revalorisation du minimum vieillesse de l'ordre de 20%. Et j'avais même lu quelque chose qui, je trouve, est un des aspects les plus socialistes, si je puis m'exprimer ainsi, c'est la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Et l'idée que j'ai, c'est qu'en fait, Éric Zemmour, pour moi, est l'héritier de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire sur les sujets d'immigration, insécurité et islam, mais également qui a le quatrième, disons, volet. L'aspect libéral d'un point de vue économique, alors que Marine Le Pen a ses trois premiers volets, mais qui, sur le sujet éco, effectivement, n'est pas dogmatique à être, quand on dit qu'elle a un programme économique de gauche, c'est pas forcément l'aspect le plus socialiste, le plus interventionniste, mais malgré tout, on retrouve quand même des points importants qu'on peut retrouver même pas au Parti socialiste, parce que les points que je décris là n'ont même pas été portés par le PS.
Bien sûr,
Mais
bien
c'est
sûr.
porté par exemple par Jean-Luc Mélenchon.
Bien sûr. Vous savez, moi, je viens de. Alors, j'habite à Metz aujourd'hui depuis 2011, mais je viens du Pas-de-Calais. Je viens
La
du
gauche.
bassin minier. Donc, vous savez, je connais par cœur cette histoire ouvrière. Je connais par cœur l'histoire de la gauche dans ma région, et je connais par cœur évidemment les scores que nous faisons dans ces territoires qui jadis étaient communistes. Donc, vous voyez, il n'y a pas absolument de méconnaissance de ma part de ces sujets-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la droite à laquelle, même si au Rassemblement national, on veut un peu dépasser le clivage gauche-droite, la droite à laquelle a pu appartenir ou en tout cas à laquelle peut appartenir le Rassemblement national, comme je l'ai dit, c'est une droite sociale, populaire et qui a toujours existé. Dans l'histoire, en France en tout cas, au RPR, vous aviez ce petit peuple, le petit peuple du RPR, comme on l'appelait, qui votait pour le RPR et qui n'était pas forcément ultra-libéral ou dans une logique néolibérale. Si vous voulez, le général de Gaulle aussi avait un vote ouvrier se partageait entre le général de Gaulle et le Parti communiste. Donc, si vous voulez, en France, il y a toujours eu la place pour une droite populaire, une droite sociale, qui ne verse, comme je vous l'ai dit, non pas dans une vision socialiste, mais qui prend en compte la paupérisation, qui prend en compte les difficultés économiques des citoyens, et qui peuvent répondre à ça par des aides, mais des aides qui sont d'urgence, mais surtout par de la création de richesses, par une relance de l'économie, parce que aujourd'hui, on est un peu comme dans un système de perfusion. Et ça, pour le coup, c'est le mauvais versant de. C'est le mauvais. C'est pour le coup, on est comment dire, dans ces reliquats du socialisme qui distribue des allocations à tout va. Et le discours de Marine Le Pen, c'est déjà recentrer ces allocations, déjà les réserver davantage. C'est pour ça qu'on va mettre en place la priorité nationale, donner priorité aux Français à l'accès à certaines allocations, puisque, par exemple, les allocations familiales qui ont pour but de défendre la natalité, ça n'a aucun sens de défendre la natalité des étrangers. Enfin, c'est du bon sens. Donc, si vous voulez, on veut se recentrer sur cette question sociale et on veut répondre à ça aussi par une relance de l'économie, une réindustrialisation de la France, de la création d'emplois, faciliter les capacités à investir, à créer des entreprises, à innover. C'est d'ailleurs pour ça que Marine Le Pen, pour les moins de 30 ans, alors je ne sais plus si c'est 25 ans, peut-être 25 ans ou moins de 30 ans, mais veut exonérer d'impôts sur les sociétés les jeunes de moins de 30 ans. Et ça, c'est un signe très favorable pour la création d'entreprises en France, puisqu'en général, ceux qui créent des entreprises, ce sont les jeunes, et les jeunes sont l'avenir. Donc, si vous voulez, moi, ça me semble aberrant de toujours caricaturer Marine Le Pen sur ces... Parce qu'on peut prendre toujours des mesures qui pourraient apparaître comme des mesures classiques de droite. Réduire les impôts, réduire les normes, les charges... y compris de surcroît sur les entreprises. Donc, si vous voulez, on peut prendre des mesures comme ça, dire ça, c'est peut-être plus de gauche, ça, c'est peut-être plus de droite. C'est vrai, mais quelque part, on essaie aussi de prendre ce qu'il y a de meilleur sur ce qu'il y a de meilleur dans les deux versants. Donc, sans pour autant être dans la caricature d'une idéologie, que ce soit le libéralisme ou que ce soit le socialisme, pour être un peu caricatural, pour correspondre à d'anciens, on va dire, d'anciens schémas. Nous, on a une vision pragmatique de ce point de vue-là. Et Éric Zemmour, pour en revenir là-dessus, Éric Zemmour, il n'est pas contre les interventions de l'État pour sauver des secteurs clés de l'économie. Il y a plein de points communs sur le plan économique avec Éric Zemmour. Donc, là aussi, il y a de la caricature. Sur cette histoire de retraite à 60 ans, on est pour 40 annuités pleines. Ce qui fait que quelqu'un qui a commencé à travailler à 22 ans partira à 62 ans et des brouettes. Donc, vous voyez, on est déjà plus au stade de la retraite à 60 ans. Là aussi, c'était de la caricature. Pour empêcher la droite, enfin les électeurs, les sympathisants de droite de nous rejoindre. Alors qu'on est d'accord sur 90% du constat et parfois même des solutions. Donc voilà.
J'aimerais qu'on change de sujet parce que le temps avance et on a quand même d'autres points à aborder. La thématique de l'euro. Beaucoup de Français ont le sentiment que le Rassemblement national a changé de bord sur ce sujet. Ou peut-être que c'est un sentiment que moi seul disons. Mais question simple, quelle est la position du Rassemblement national là-dessus ? Une sortie de l'euro, est-ce qu'elle est encore d'actualité ?
Alors, vous savez, on a mis de l'eau dans notre vin sur ce sujet pour deux raisons. La première des raisons, c'est déjà que les mouvements politiques qui nous sont similaires en Europe, en Italie, en Pologne, alors, au Royaume-Uni, même si c'est différent, parce que le Parti conservateur est un parti qui a toujours existé, et si vous voulez, enfin, je mets de côté le Royaume-Uni, admettons. Mais il y a un tas de pays où, électoralement, nous progressons, où parfois nous sommes au pouvoir, où nous participons au pouvoir. Et donc, nous, notre stratégie, notre analyse, c'est qu'une fois que nous serons arrivés au pouvoir en France, on pourra, avec nos partenaires qui seront plus ou moins de notre sensibilité, faciliter des négociations, des révisions de traités et qui nous permettent de ne pas forcément sortir de l'euro, car on reste sur le constat que l'euro n'a pas forcément été une bonne chose pour la France, pour l'économie française à bien des égards, mais qui pourrait être très compliqué de sortir de cet euro. Donc, nous, notre objectif, ce serait voilà, d'affiner cette situation avec nos partenaires européens qui arrivent au pouvoir petit à petit. Et de toute façon, sur cette question comme sur d'autres en Europe, la France, elle compte. On ne peut pas prendre une décision d'ampleur au sein de l'Union européenne sans la France. Donc, dès lors que la France émettra des réserves sur tel ou tel point, ça pourrait être l'euro sur lequel on pourrait changer un certain nombre de choses, mais la France aura sa voix à faire entendre sans pour autant passer par une sortie unilatérale ou sans pour autant entériner une logique tout court. Donc, on pense qu'il y a des moyens de négocier, on pense qu'il y a des moyens de permettre que cet euro soit plus adapté à notre économie, qu'il ne soit pas seulement au bénéfice de l'Allemagne, par exemple, Voilà, on pense qu'il y a des marges de manœuvre encore là-dessus. Donc, et la deuxième raison, c'est qu'aussi les Français, il faut le reconnaître. Alors, vous pourrez dire que c'est une vision électoraliste, c'est vrai aussi, mais de toute façon, on est aussi dans cette logique-là, c'est-à-dire que les Français nous disent ça, c'est difficile d'aller à rebours, parce qu'il s'avère que c'est un sujet sur lequel ils sont très attentifs. Donc, on a mis de l'eau dans notre vin pour ces raisons, mais la logique, la philosophie à la base ne change pas, c'est qu'on veut redonner à la France ses marges de manœuvre, sa souveraineté, sa capacité de décider pour elle-même, pour son économie et pour ses frontières. Et pour ça, on est prêt à aller négocier avec nos partenaires européens, et négocier, c'est-à-dire avoir ce que l'on veut, parce qu'il n'est pas question de faire un sommet de la dernière chance et de dire qu'on s'est confronté à des refus. À un moment donné, la France, on ne peut pas faire sans l'aide de la France. Donc, on a une puissance économique de premier plan, on a une puissance militaire de premier plan, on a un siège à l'ONU, on a l'atout de la francophonie. Donc, tous ces atouts-là, et je pense qu'avec une forte volonté politique, on pourra changer les choses là-dessus sans pour autant sortir unilatéralement de cette monnaie, même s'il y a beaucoup à faire pour que la France retrouve un peu de souveraineté.
Vous avez raison, c'est l'hypothèse justement où l'Allemagne, principalement l'Allemagne, accepte justement de renégocier les traités et disons la position de l'euro. Et effectivement, la France est 20%, je crois, du PIB européen. Donc l'Europe sans la France, c'est plus l'Europe.
Voilà,
On est
ne
d'accord
serait-ce que
là-dessus.
sur l'aspect économique, et il y en a d'autres,
Ne
hein.
serait-ce que sur l'aspect économique. Et après, abordons l'aspect militaire également. Mais néanmoins, admettons dans l'autre hypothèse où l'Allemagne n'accepte pas. Est-ce que Marine Le Pen serait prête à tout de même franchir le pas et quitter l'euro?
Alors, vous savez, déjà, l'Allemagne n'est forte en Europe que parce que la France est faible. Et la France le veut bien d'être faible, parce que ce sont ses dirigeants politiques qui sont bien souvent à plat ventre devant le fameux modèle allemand, hein, dont on nous rabâche les oreilles. Un peu moins ces derniers temps, parce qu'on s'est rendu compte que le modèle allemand polluait en Europe et nous envoyait sa pollution au passage. Hein, je parle de son système de production énergétique, hein, qui n'est pas exemplaire du tout. S'il y a bien des gens qui sont exemplaires en la matière, c'est plutôt la France. Mais de manière générale, en effet, dans un premier temps, je pense qu'on va se confronter à un refus de l'Allemagne. Même si l'Allemagne, je peux vous dire que si l'Allemagne, du jour au lendemain, apprend que c'est Marine Le Pen qui arrive à l'Élysée, déjà là, je pense qu'ils seront d'emblée amenés à mettre de l'eau dans leur vin, parce que si Marine Le Pen arrive à l'Élysée, ça veut dire que la France sera derrière elle, le peuple français sera derrière elle. Et si l'Allemagne veut à tout prix éviter un nouveau Brexit, parce l'Union européenne peut se passer éventuellement du Royaume-Uni, mais là, il s'agit de la France. Il s'agit d'un pays qui est sur le continent, il s'agit d'un pays fondateur, et il s'agit d'un pays, encore une fois, avec lequel on ne peut pas faire autrement. Donc, dès lors que la France se met à la table des négociations, on ne peut pas faire autrement. Et encore une fois, nous aurons avec nous un capital politique, celui du soutien du peuple français, qui nous aura donné un mandat pour aller négocier. Et si l'Allemagne ne veut pas, eh ben, peut-être qu'on se tournera davantage vers d'autres partenaires comme l'Italie. Moi, j'aimerais d'ailleurs, c'est aussi l'optique, que la France se tourne davantage vers alors, je ne parle pas de couple, parce que la logique du couple n'existe qu'en France. En Allemagne, ça les fait rire, la logique du couple franco-allemand. Mais je pense qu'on aurait davantage de se faire un vrai partenaire avec l'Italie plutôt qu'avec l'Allemagne. Et encore une fois, la France aussi a des atouts sur tous les continents. On a l'outre-mer, donc si vous voulez. On peut parfaitement prendre le large. Si l'Allemagne se heurte, si l'Allemagne refuse, s'obstine, nous, on a d'autres atouts dans notre carte en jeu. Donc, moi, je ne doute pas qu'on parvienne à nos fins et obtenir plus, enfin, obtenir d'avoir à rééquilibrer, parce qu'il s'agit de là, en fait, à rééquilibrer la donne en Europe et au sein de l'Union européenne.
Parlons maintenant d'immigration. J'aimerais qu'on pose un cadre théorique qui pourrait peut-être représenter ce que pense le Rassemblement national. Est-ce que vous pensez que nécessairement une hausse de l'immigration entraîne une hausse de la délinquance? Est-ce que vous pensez que la délinquance ne se manifeste pas avant tout dans les lieux où la drogue, où les réseaux sont présents? Et je vous lis ça pour arriver à une seule et unique question. Pour vous, pour le Rassemblement national, qu'est-ce qui cause la délinquance?
Alors là, déjà, je rebondis sur ce que vous dites, parce que l'idée que vous avez derrière Vous dites que la délinquance se développe là où il y a les réseaux de drogue, etc., etc. Mais pourquoi il y a ces réseaux de drogue déjà? C'est déjà de là où il faut partir. Moi, je ne pense pas que l'aspect social soit, ou du reste, soit la seule explication à cette délinquance, à cet ensauvagement régulier à laquelle nous assistons dans nos quartiers et en France de manière générale, parce que là, ça a dépassé le stade des quartiers depuis bien longtemps. Si vous voulez, moi, j'en reviens aussi un peu à mes racines. Comme je dis, je viens du Pas-de-Calais, qui est un département plutôt paupérisé, où il y a beaucoup de classes populaires. Je viens d'une petite commune de 4 000 habitants, plutôt rurale, et qui fait partie, comme le reste du bassin minier, de ces anciens bastions désindustrialisés, et où il y a une précarité relativement, où il y a une certaine précarité. Donc, il n'y a pas d'explosion de la délinquance dans ces territoires. Il n'y a pas de trafic de drogue à grande échelle. Il n'y a pas de.
Et justement,
Vous avez vu le film.
pas
Je
c'est
sais pas si vous
lié.
avez vu le film Bac Nord, mais encore une fois, c'est pas dans des zones rurales que Bac Nord sont possibles. Moi, je pense qu'en effet, l'immigration a un rôle dans cette délinquance, dans cette criminalité, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, cette immigration est massive, incontrôlée. C'est-à-dire, on accepte trop de gens. On ne peut pas répondre comment dire, aux besoins de toutes ces populations qui sont diverses, qui viennent de d'autres aires culturelles que les nôtres, d'autres aires civilisationnelles. Tout cela, ça demande un travail d'assimilation, un travail d'assimilation, mais on a renoncé à l'assimilation en France. Donc déjà là, vous avez un problème pour faciliter, pour faire de ces gens-là des Français. Vous avez un vrai problème. S'ajoute à ça comment dire, des problématiques dans les territoires où vous n'avez, parce qu'il n'y a pas cette volonté de vivre ensemble, et pour vivre ensemble, pour avoir cette volonté de vivre ensemble, il faut partager des choses en commun. Or, vous savez, quand vous avez des Français dans ces zones et qui vivent à la française, et qui parfois se font traiter, qualifier de Gaulois, qui se font qualifier de gouers. Alors moi, un jour, quand j'étais au lycée, je me suis fait qualifier de gouers. Je ne savais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire français, gaulois, tout simplement. Quand vous avez ces regards qui vous reprochent d'être ce que vous êtes dans votre propre pays, il y a aussi à la fois, il y a plusieurs. En fait, c'est à la croisée de la délinquance et la criminalité sont à la croisée des chemins. Il y a une thématique sociale, certes. C'est évidemment un élément à prendre en compte, mais il n'y a pas que ça. Il y a des populations qui tout simplement ne veulent pas s'assimiler en France, comment dire, qui n'arrivent pas à concilier, pour certains d'entre eux, pas tous, parce qu'il y a des exemples de l'assimilation dans notre pays. Et quelque part, je fais une parenthèse, mais même Éric Zemmour est un exemple de cette assimilation, c'est-à-dire de quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui peut parfaitement devenir français. Et ça, des exemples, il y en a pléthore, il y en a des myriades. Mais aujourd'hui, les conditions de cette assimilation ne sont plus là, parce que vous avez des politiques, des gouvernements successifs qui ont dit que pour s'assimiler en France, enfin, ils ne parlaient même plus d'assimilation, ils parlaient d'intégration, et ben, il fallait tout simplement avoir un travail. Sauf que quand vous avez, déjà, je pense qu'un travail, ça ne suffit pas pour devenir pleinement français, c'est un préalable, mais ce n'est pas suffisant. Et quand vous n'avez plus de travail à donner aux gens que vous faites venir, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que vous avez comment dire, une crise sociale, vous avez une précarité qui vient alimenter de la précarité, parce que au-delà de cette immigration, on crée déjà de la précarité chez nous. Alors c'est quand même incroyable d'importer de la précarité. On a des problèmes de logement en France et pourtant on continue à faire venir des gens en France. Comment on va les loger? On a le problème, la thématique de l'éducation nationale qui est un peu moribonde. Il y a une baisse de niveau, il y a un manque de moyens et pourtant on continue à faire venir des gens, mais on n'a pas d'avenir à offrir à ces gens-là. Malheureusement, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Donc cette thématique de l'immigration, de la criminalité, de la délinquance. Elle est à la croisée des chemins, parce que vous avez aussi des gens qui viennent alimenter des conflits passés, hein, les fameux woke dont on parle habituellement, et qui viennent dire que les Français sont des méchants blancs colonialistes, collaborationnistes, et qui sont dans la suprématie et qui considèrent les Français venus d'étrangers comme des sous-citoyens. Vous avez des gens qui alimentent ce conflit sur notre territoire, qui refuse l'assimilation. Donc, si vous voulez, c'est un sujet complexe, l'immigration. Et ce qu'il faut dans un premier temps, c'est déjà fermer les vannes. Parce que avec l'immigration qui est déjà venue auparavant, On n'a pas été capable de répondre à ces problématiques, que ce soit celle de la délinquance, de la criminalité, sur le plan économique, sur le plan de l'assimilation de manière générale. Donc il faut fermer les vannes de l'immigration, il faut renvoyer les gens qui, dans notre pays, les étrangers qui ne respectent pas nos lois, nos us et coutumes, et ça, encore une fois, c'est du bon sens, parce qu'un tas de pays le font. Et au final, ce que veut faire Marine Le Pen sur l'immigration, c'est rien de plus que ce que font un certain pays au monde, un certain nombre de pays au monde. On pourrait prendre l'exemple de l'Australie, par exemple, on pourrait prendre l'exemple du Japon, on pourrait prendre l'exemple des États-Unis. Alors, c'est plus le cas depuis Biden, mais tout ça pour dire qu'il y a un tas de pays au monde, et de surcroît des démocraties, qui régulent l'immigration. Et non seulement c'est parfaitement faisable, mais c'est même souhaitable pour l'apaisement d'une société, parce que vous avez des gens qui n'ont rien à voir entre eux sur le plan culturel, et s'ils sont trop nombreux, on va avoir du mal à les assimiler, à les intégrer, à faire en sorte qu'ils embrassent la civilisation française avec ses valeurs, son histoire, son identité, ses us et coutumes.
Mais encore une fois, j'aimerais juste rebondir du coup sur ce que vous venez de dire.
Ouais.
Vous parliez notamment des quelques cas d'exemple, entre guillemets, vous citiez notamment Éric Zemmour, mais de personnes qui
Il y
sont
en a d'autres, hein,
assimilables.
évidemment.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ces exemples, ils existent, c'est donc possible. Qu'est-ce
Mais.
qui fait du coup, selon vous, que c'est possible dans certains cas et ça ne l'est pas dans l'autre?
Alors,
Qu'est-ce qui.
c'est possible parce que déjà, il faut que pour se faire l'immigration soit quasiment homéopathique, c'est-à-dire à petite dose. C'est-à-dire qu'actuellement, on est. Alors, je n'ai pas les chiffres par cœur mis à jour en tête, mais en France, grosso modo, on a plus de 200 000 entrées légales par an, hein, si ce n'est peut-être plus les derniers chiffres, il faut voir. On n'a pas de chiffres sur l'immigration clandestine, par définition, mais il y en a certains qui chiffrent ça à des centaines de milliers. Donc là aussi, vous venez rajouter une pression migratoire supplémentaire. Donc, si vous voulez, le nombre, la quantité ne permet pas la qualité. Par définition, c'est vrai dans ce domaine-là, c'est vrai dans d'autres. L'assimilation, ça demande une exigence, ça demande des efforts, des sacrifices, et malheureusement, tout le monde n'est pas prêt ou en mesure ou en capacité de faire ces efforts. Donc, et ce qui fait la beauté aussi de ces parcours, de ces Français d'origine étrangère, quelle que soit leur origine, leur religion, je ne sais quoi, ce qui fait la beauté de ces parcours, c'est que c'est des parcours difficiles, c'est des gens qui ont bossé comme des dingues, et qui ont dû. Vous savez, c'est Charles Aznavour qui disait ça, Charles Aznavour qui était d'origine arménienne, et qui avait dit que pour devenir Français, il avait dû se défaire d'une partie de son arménité. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que l'assimilation, c'est-à-dire devenir pleinement français, ça demande d'embrasser la culture française, de devenir pleinement français de par la culture, de par les repères, de par l'histoire, de par la langue, bien sûr, il va sans dire. Et malheureusement, ça, c'est difficile de le faire avec de telles quantités, parce que pour ce faire, il faut qu'il y ait déjà une école qui joue son rôle, qui soit une école qualitative, avec des moyens. Mais encore une fois, on n'est plus capable de le faire avec une. L'école est un peu défaillante. Vous avez des conditions économiques qui sont problématiques, qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui, hein, il y a des situations précaires, on produit des situations précaires en France, et comment vous voulez répondre à une précarité qui vient d'ailleurs alors que vous n'êtes pas capable de résoudre celle que vous produisez actuellement? Donc il faut s'attaquer aux causes là-dessus. Et le troisième point, c'est que vous avez aussi des populations, malheureusement, qui, de par leur quantité, ne sont pas solubles dans la nation française. Certains ne veulent pas s'assimiler. Certains le veulent, et eux, ils sont les bienvenus. Et nous, la porte est grande ouverte envers ceux qui veulent s'assimiler. Mais ceux qui veulent continuer à vivre dans leur culture d'origine, pour nous, c'est non. Simplement parce que le modèle d'intégration de la France, c'est l'assimilation, et qu'on n'est pas dans un modèle communautaire ou multiculturel.
Est-ce que pour vous, si je peux résumer, est-ce que pour vous, la non-assimilation, ou plutôt le multiculturalisme, entraîne la délinquance? Et la question que
Évidemment.
je pose à travers ça aussi, c'est pour prendre ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous avez comparé à votre région natale. Vous avez parlé du Nord, vous avez parlé même au global des milieux ruraux, où effectivement, il y a pauvreté et peu de délinquance. Mais j'en reviens à la question que vous avez posée au sujet des réseaux de drogue. C'est qu'encore une fois, dans les milieux ruraux, il y a un peu de drogue, mais en comparaison, il y en a beaucoup moins que dans certains quartiers au milieu urbain.
Alors, vous savez, alors oui, il y a une thématique spéciale, il y a le milieu urbain qu'il faut traiter dans sa globalité. Milieu rural, vous en avez très peu et ce sont des consommateurs. Vous n'avez pas de.
Exactement.
Vous
Ce
en
sont
avez,
des
mais c'est même pas, c'est infinitésimal. Et alors, la thématique en ce qui concerne les grandes villes et leur périphérie et les banlieues, en effet, vous avez dans les grandes villes des consommateurs qui sont souvent des. Je fais des raccourcis, je caricature, mais des enfants de bourgeois, souvent des gens issus de milieux aisés qui consomment en effet ces substances. Donc, il y a la problématique du consommateur, c'est vrai. Et je pense qu'il faut davantage, il faut davantage réprimer les consommateurs, mais il faut surtout s'attaquer aux trafiquants de drogue qui sont dans les cités, comme on a coutume de dire. Je pense que
Pour moi, c'est une variable qui a peu d'importance dans le sujet de la délinquance. Parce que si vous voulez, moi, dans l'idée
ça, évidemment, bien sûr,
que j'ai de la
évidemment.
drogue, c'est que justement, ça crée, au-delà même du trafic que ça crée, c'est que ça crée un ambiance et un ethos et une sociologie comportementale des personnes. Vous savez, cette culture du respect, mais du respect de l'affrontement, de la physique, cet aspect qui va créer une multitude de comportements pour les personnes qui ne sont même pas consommatrices ou même vendeuses de drogue, mais qui va. Alors on parlait d'assimilation, ne peut même pas s'assimiler aux mœurs françaises globaux, mais s'assimiler au comportement de la cité, du territoire, avec un comportement, disons, un peu gangster. Vous voyez ce que je veux dire? Pour des personnes qui ne seront même pas liées au sujet de la drogue, normalement, qui ne sont pas consommatrices ou qui ne sont pas vendeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Créer tout ça par les réseaux de drogue.
Alors déjà,
Ça, c'est
l'assimilation,
un.
c'est vrai qu'elle ne peut pas s'opérer dans ces cités parce qu'il n'y a y a quasiment que des gens d'origine étrangère qui vivent entre eux, de différentes origines certes, mais il y a très peu de mixité entre guillemets dans ces quartiers pour des raisons logiques. Parfois, des gens ont fui ces cités, des gens, soit des Français d'origine ou des Français de branche qui s'étaient intégrés, qui s'étaient assimilés à la France et qui ont fui ces territoires parce que tout simplement ils étaient mal vus, ils étaient parfois vus comme des traîtres pour ceux qui avaient fait les efforts de s'assimiler. Donc il faut là aussi, on peut difficilement faire s'assimiler des gens entre eux. Ça n'a pas de sens, donc ça c'est un problème. Ensuite, la question de la drogue, la question de la sécurité, de la criminalité, c'est même plus global que la drogue parce que c'est un écosystème. Vous avez vu il y a quelques jours cet homme. Ce retraité qui s'est fait traîner à partir d'une voiture dans les rues. Alors là, il n'y a pas une thématique particulière de drogue. Alors même si j'ai cru comprendre que la personne, j'ai cru voir passer cet élément, mais que la personne avait déjà été condamnée ou en tout cas avait déjà eu avait déjà été en relation, si je puis dire, avec la police pour des histoires de drogue. Je crois avoir vu passer ça, mais c'est pas le fait qu'il soit trafiquant de drogue, c'est pas et
Non, non,
qu'il
non,
a.
non, non, ce que
Vous voyez,
je
il y a un
veux dire.
sujet plus global aussi qui est celui de la sécurité que nous,
Mais
on appelle aussi
exactement. Mais pour moi, la drogue contribue à ça. Et ce que je veux dire, c'est que mon idée, en tout cas personnelle, c'est que justement, la drogue, je vous parlais de sociologie comportementale. C'est-à-dire qu'en fait, la drogue va créer une espèce de sociologie des individus où les personnes vont. La drogue, en fait, crée un climat d'insécurité, un climat de rapport de force. Et dans cette situation, même les personnes qui ne sont pas liées à la drogue vont vouloir quand même tenir en respect ces certains caïds. Et donc créer une ambiance globale de confrontation, peut-être de violence, d'insécurité, qui va, à force de vivre comme ça impacte nos caractères, nos esprits, et on fonctionne ainsi dans la vie de tous les jours. Et donc, ce jeune-là, en l'exemple, qui a traîné la personne âgée en voiture, effectivement, on n'avait pas, le sujet n'était pas lié à la drogue, mais peut-être que cette personne avait. Socialement vécu dans un environnement qui n'était pas sain, mais qui, pour moi, qui n'est pas sain à l'origine parce que il y a des réseaux de drogue qui existent.
Alors, mais encore une fois, oui, enfin, le, comment dire, l'écosystème dans lequel il a grandi, dans lequel il a évolué, évidemment, ne va pas l'aider à bien se développer et à être en cohérence avec le reste de la société. Ça va sans dire. Il y a un environnement à prendre en compte et c'est même fondamental dans l'évolution des individus. Mais de manière plus globale, de manière plus globale sur le sujet de la sécurité et de l'insécurité, de la délinquance, de la criminalité. Il y a aussi la question du terrorisme, qui, là aussi, et on n'en a pas parlé, qui correspond à cette thématique. En France, le terrorisme, et on en revient au sujet de l'immigration, comment dire, il y a des attentats au nom d'une religion. Alors, évidemment, tous les musulmans, parce qu'en l'occurrence, c'est au cri d'Allah Akbar qu'on commet des actes terroristes, évidemment, il va sans dire. que tous les musulmans ne sont pas des terroristes et qu'une large partie des musulmans ne sont pas confrontés, ne vont pas aller dans ce genre de délire de s'attaquer aux gens, de vouloir leur de faire des actes terroristes. Mais il y a quand même une thématique, c'est que, encore une fois, ceux qui tuent en France au nom d'une religion le font précisément au nom d'une religion, sans pour autant dire que tous les terroristes ne sont pas musulmans, mais il s'avère que ceux qui ont commis des actes terroristes en France cette dernière décennie se déclaraient musulmans. Alors après, on peut faire une interrogation écrite pour savoir si oui ou non ils ont lu le Coran, j'entends bien, mais encore une fois, ce n'est pas anodin qu'on tue au nom d'une religion spécifique. Donc il y a là aussi cette thématique de l'islam que pour moi, le vrai sujet, c'est l'immigration, parce que l'islam et une certaine conception de l'islam radicalisée, salafiste, wahhabite, découle de ce problème migratoire, de ce problème de non-assimilation. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut traiter le sujet dans sa globalité, ne pas être dogmatique sur la question, parce que quand on vous dit en général que ces terroristes tuent au nom d'une religion, on commence à vous dire c'est scandaleux de dire ça, etc., etc. Tout le monde convient que tous ceux qui pratiquent cette religion, la plupart vivent en paix et ne nous posent pas de problème. Mais vous savez, ce n'est pas tant la question de la majorité et de la minorité, c'est qu'une minorité est toujours active, et c'est parfois les minorités qui prennent en otage les majorités. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait rien pour s'attaquer à cette minorité, on la laisse prospérer dans certains territoires pour des raisons clientélistes. Parfois, en leur promettant, on construira des mosquées, etc. En échange, on votera pour vous, on fera voter la communauté entre guillemets pour vous. Donc, il y a un cercle vicieux à ce niveau-là. Il y a un cercle vicieux et qui convient vraiment auquel il convient de s'attaquer sans complexe, en vérité, et sans comment dire, et sans être caricatural, parce que le problème, c'est qu'en France, dès qu'on pointe du doigt le problème migratoire et le problème de l'islamisation, vous fait passer pour des dingues. Donc voilà, il faut apporter un peu de rationalité sur ces sujets-là.
Et étant donné que, comme vous le dites, l'islam, enfin, les musulmans, dans la plus grande majorité, se tiennent à l'écart de toute activité extrémiste, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce que vous préconisez, pour parler un petit peu plus simplement, pour lutter contre ce phénomène d'islamisation dont vous parlez, tout en garantissant, en préservant, on va dire, l'intégrité, si je puis dire, des musulmans, pour une large majorité, qui se tiennent éloignés de tout terrorisme?
Alors déjà, il faut cesser toute forme de financement étranger ou influence étrangère. En ce qui concerne, de manière générale en France, et plus particulièrement vis-à-vis des Français de confession musulmane. Par ça, j'entends les associations, les groupements, les collectifs. Hein, il y a eu l'exemple du CCIF il y a quelques mois, qui a été dissous, enfin plus ou moins dissous, parce qu'il y a des complications juridiques, mais c'est ce genre d'entité, ce genre de structure qui viennent créer du trouble de la sécession dans la société et au sein des Français de confession musulmane, leur disant vous êtes musulmans avant tout et il y a les méchants Français qui veulent vous empêcher de vivre votre religion, etc., etc. Donc il faut, et qui souvent sont sous des influences étrangères. On pourrait aussi parler de alors il y a l'influence de l'Arabie Saoudite, l'influence du Qatar, on les connaît bien en France, il y a aussi l'influence de la Turquie, ici dans l'est de la France elle est très présente. Donc il faut faire en sorte que ces influences étrangères ne puissent plus opérer en France par ces groupements, par les moyens financiers qui peuvent en découler. Il y a aussi la problématique des mosquées radicalisées, des mosquées salafistes, enfin des mosquées qui posent problème parce que on y prêche, pour faire vite la haine, mais on y prêche surtout une conception radicale de la religion, une conception politique sur laquelle peut découler des actes terroristes. Donc, il faut s'attaquer à ces mosquées qui posent problème. Et quand je dis ces mosquées qui posent problème, ça veut dire qu'il y a des mosquées qui, évidemment, ne posent pas problème. Et je pense pouvoir dire que c'est une bonne partie des mosquées en France ne posent pas problème. Mais celles qui posent problème, on ne doit pas se priver de le dire. On ne doit pas se priver de les fermer. On ne doit pas se priver de traiter le problème. Mais malheureusement, dès que vous soulevez cette thématique en France, on vous traite tout de suite, on vous reproche la stigmatisation, l'islamophobie, qui est déjà un concept un concept flou, l'islamophobie, mais passons. Mais ce qu'il faut, c'est, encore une fois, sur ce sujet, il y a plein de choses à faire. Alors évidemment, il faut là aussi stopper les vannes de l'immigration, parce qu'on a aussi affaire comment dire, des immigrés, des étrangers qui ont une conception de l'islam qui est celle d'un autre pays. Donc si vous voulez, il y a aussi une cohérence à réguler l'immigration sur ce plan-là, parce que si vous refusez l'influence étrangère au travers de ces collectifs et l'argent qui en découle, c'est logique que cela aussi s'adresse aux individus, qui encore une fois, s'ils sont trop nombreux, ça va être difficile de les assimiler, de les intégrer à la société française. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est tendre. Ce que veut Marine Le Pen, c'est avoir une main ferme envers les Français musulmans, parce qu'ils sont avant tout français, et c'est là nous tous que nous retenons. Ils doivent pouvoir pratiquer leur culte dans le respect, dans la tranquillité, mais c'est la République française qui doit imposer, qui doit dire en France ce qui est une bonne pratique et ce qui n'est pas une mauvaise pratique. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que Napoléon a fait avec le Concordat. Lorsqu'il a fait le Concordat, il a dit aux Français, à l'époque il n'était pas encore français, mais il a dit aux Juifs de France, écoutez, ça c'est bon. Je peux l'accepter, mais ça, je ne l'accepte pas. Donc voilà, il faut faire à peu près la même chose avec les Français de confession musulmane, en leur disant la République française, ses lois s'imposent à vous. Le religieux, c'est dans la sphère privée. En fait, il faut leur imposer, et ce qui est compliqué parce que l'islam ne s'y prête pas. Il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État par définition dans l'islam. C'est un tout. L'islam, c'est un code juridique qui impose une certaine vision de la société. Donc c'est compliqué à mettre en œuvre, mais c'est le meilleur moyen à ce que tout le monde, les uns et les autres, puissent vivre en paix dans ce pays, et tout en leur permettant de pratiquer leur culte en France. Bon, il y a aussi d'autres choses à faire, hein, mais je pense que c'est déjà, il y a déjà pas mal, on a déjà pas mal égrené.
T'avais une autre question, Pierrick?
Non, non, c'est bon. C'est
Du
bon.
coup, on va se diriger doucement vers la fin de cet entretien. Petite question, du coup, en guise de fermeture. Comment, de manière générale, à l'heure actuelle, au Rassemblement national, vous envisagez, vous voyez cette élection qui approche? Quel est le sentiment dans les troupes? On entend beaucoup parler, alors. C'est le cas aussi pour d'autres partis, de difficultés à obtenir les 500 parrainages nécessaires. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là et comment vous appréhendez cette élection qui arrive très rapidement?
Alors très rapidement sur les parrainages, c'est toujours récurrent, hein, nous avons des difficultés sur la question et alors c'est encore plus, les difficultés se sont accrues cette année parce que vous avez des maires qui doivent faire face à de plus en plus de pression, celle des intercommunalités, celle des métropoles, et qui si jamais ils ont le malheur de donner une signature à un mauvais candidat, entre guillemets, ben, risquent de voir leur subvention être coupée, être sabrée, être suspendue, etc. Donc il y a toujours des collectivités, des hommes politiques qui font pression sur les maires pour éviter que tel ou tel candidat ait leur signature. Donc il y a cette difficulté-là pour Marine Le Pen, c'est récurrent. Ça l'est aussi pour Éric Zemmour, ça l'est aussi pour Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Donc ces parrainages, j'aurais beaucoup à dire sur la question des parrainages, mais avec difficulté, on galère, mais on les aura, je n'en doute pas. Mais pour les avoir, vous savez, moi-même, je fais partie des membres pour cette collecte des parrainages dans mon département. Je peux vous dire que c'est un travail de longue haleine, mais vous savez, moi je suis quelqu'un qui d'optimiste et qui a toujours espoir. Je pense que nous les aurons, difficilement, mais nous les aurons. Et concernant les attentes sur cette présidentielle, bah, c'est vrai que c'est une présidentielle un peu spéciale, puisque post-Covid, là aussi, et quand on est un observateur de la vie politique, on a pu constater que cette crise Covid avait, d'une part au municipal et au régional, provoqué un taux d'abstention record, de l'ordre entre 20 et 30 %, ce qui est quand même, c'est inimaginable, quoi. C'est des élections, surtout pour les municipales, où c'est quand même une élection où il y a de la participation. On est tombé, moi, dans ma ville, à Metz, on est tombé entre 20 et 25 %. Des gens qui sont allés voter, ça fait peur, ça fait peur. Et là, il s'agit de la présidentielle, donc c'est un peu la mère des batailles. Et donc, ça peut être qui tout double, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un surcroît de mobilisation, il peut y avoir un retour des électeurs aux urnes, parce que la présidentielle, ça va encore dire quelque chose chez les Français. Il y a eu voilà, les événements qu'on a traités précédemment, le quinquennat d'Emmanuel Macron, les gilets jaunes, le Covid. Donc, normalement, il y a tous les éléments clés pour qu'il y ait une grosse mobilisation à cette élection présidentielle, pour que les gens s'impliquent. Et en même temps, on est forcé de constater que ça peut aussi être un moyen d'explication pour l'abstention, parce que les gens peuvent se dire, plus que jamais on en a marre, plus que jamais ça n'a jamais été aussi mal. Donc on boycotte la démocratie, parce que malheureusement, et parfois ce constat se tient, la démocratie ne se préoccupe plus de nous, parce que déjà elle ne nous entend pas à travers des référendums, elle ne nous représente pas à l'Assemblée, elle nous méprise à travers son principal dirigeant, hein, vous en avez quand même Emmanuel Macron, qui a quand même été assez, comment dire, qui a quand même eu un langage étonnant à l'égard des Français. Il a eu ces fameuses petites phrases, hein, les Gaulois réfractaires, les ouvrières qui ne savent ni lire ni écrire, qui sont analphabètes, ce genre de phrases. Et la dernière en date, c'est il entend emmerder une catégorie de Français, ce qui est quand même incroyable. Et je pense que les gens, malheureusement, je le regrette, mais ils vont vouloir en découdre, mais pas au travers du vote, mais au travers de l'abstention. Alors moi, je pense que c'est une mauvaise analyse, mais je pense que c'est un sentiment qui est partagé par une partie notable de la population. Ils pensent que l'abstention va permettre de renverser la table, alors que c'est tout l'inverse, malheureusement. Donc je reste optimiste, parce que je suis optimiste de nature, et puis vous savez, j'ai une fibre un peu de... J'adore l'histoire, je suis un passionné d'histoire, et je sais que dans l'histoire, à un moment donné, là où tout peut apparaître comme étant fichu, bah, il y a un retournement, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui retourne la situation. Donc, moi, je suis quelqu'un à titre personnel qui reste optimiste, malgré tout.
Très bien.
Bien. Bah, merci beaucoup, Grégoire Lallou. Merci pour cet entretien.